Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Le 11 mars 2011 commençait ce que l'on a appelé l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, survenu suite à un tremblement de terre et un tsunami qui ont ravagé cette région du monde. Un accident industriel qui finira par devenir la plus grande et dramatique catastrophe nucléaire du XXIe siècle, classée niveau 7, niveau similaire au drame de Tchernobyl qui eut lieu en ex-URSS en 1986. Les conséquences qui en découlèrent sur la santé humaine, sur l'environnement et sur la dépendance énergétique au Japon ont joué comme un électrochoc à l'échelle de la planète. Comment en est-on arrivé là ? Quel dysfonctionnement cette catastrophe a-t-elle révélé et quels risques fait-elle encore courir ? Quelles leçons a-t-on tiré de Fukushima au Japon et ailleurs, à l'occasion de la sortie au cinéma du film Fukushima, le couvercle du soleil, le 6 mars prochain, nous accueillons l'ancien Premier ministre du Japon, Naoto Kan, bonjour. Et avec à vos côtés l'interprète Catherine Cadou, vous étiez en poste en 2011 au moment de la catastrophe et depuis, bien, vous militez pour le développement d'une politique énergétique renouvelable. On en parle avec vous aujourd'hui et également avec Mathieu Golen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Japon, doctorant-chercheur au Centre de recherche sur les risques et les crises à l'École des mines à Nice, Sophia Antipolis, et auteur du livre Le nucléaire en Asie, Fukushima et après, un livre paru aux éditions Piquier. Fukushima, les leçons d'une catastrophe, c'est le thème de l'émission en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du Monde, préparée par Anaï Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée toujours par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Bonjour à tous et bienvenue.
Au bord du Pacifique, la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima. Dès le tremblement de terre hier, ces réacteurs se sont arrêtés. Seulement voilà, leur refroidissement aussi. Rapidement à Tokyo, le porte-parole du gouvernement tente à minimiser les conséquences de l'explosion.
Nous confirmons l'explosion à Fukushima du bâtiment numéro 1 et une légère fuite radioactive, mais l'enceinte du réacteur n'a pas été touchée.
Pourtant, voici quelques rares images tournées aujourd'hui dans le secteur de la centrale. L'alerte nucléaire semble prise au sérieux. Des réfugiés dont on contrôle la radioactivité sont accueillis dans des centres de la protection civile.
Pour l'instant, nous sommes en sécurité, mais j'ai peur que nous soyons irradiés quand nous sortirons.
Un périmètre de sécurité élargi à 20 km a été instauré pour la population et des comprimés d'iode vont être distribués. En fin de journée, des éléments de césium ont été détectés aux abords du site. Mais le gouvernement japonais maintient que le taux de radioactivité a baissé après l'explosion.
C'était le 12 mars 2011, un reportage diffusé sur France 2 le lendemain donc de cette catastrophe survenue, je le rappelle, le 11 mars 2011, 14h46, tremblement de terre, séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter qui frappe le Japon, suivi d'un tsunami avec des vagues jusqu'à 38 mètres de haut, 20 000 morts et disparus, une catastrophe qui reste dans la mémoire de tous, Naoto Kan, et à travers le monde, et dans la vôtre en particulier, vous étiez où précisément à ce moment-là ?
J'étais au Parlement, j'étais au Sénat du Japon et j'étais en train de répondre à la question de la Commission des Finances. Et à ce moment-là, on a tous vu les lampadaires, les chandeliers du plafond qui se sont mis à bouger de manière complètement inquiétante. Et on a vu que c'était un séisme majeur.
Et là, qu'est-ce qui se passe en vous, Naoto Kan ? Est-ce que vous réalisez l'ampleur de la catastrophe, le risque pour votre pays ou vous n'en avez pas véritablement les moyens de mesurer justement les conséquences parce qu'il n'y a pas forcément les informations qui remontent jusqu'à vous.
Nous, au Japon, on est habitués aux tremblements de terre. Mais celui-ci, j'ai vu assez vite, nous avons tous vu, j'étais donc à la commission des finances du Sénat, et nous avons tous compris que c'était très grave parce qu'on a vu les chandeliers, les lampadaires, les lampes qui se balançaient tellement qu'au bout de deux minutes à peu près, le président de la séance de questions au gouvernement a dit non, on arrête là. Et à ce moment-là, j'ai bien compris que c'était beaucoup plus grave que d'habitude. On a l'habitude au Japon de sentir des tremblements de terre, mais là, c'était beaucoup plus grave. Et je me suis précipitée, je suis retournée à la résidence où le siège du gouvernement. Nous sommes allés au sous-sol, à la cellule de crise.
Alors, qu'est-ce qui, durant ces jours, vont vous faire changer d'avis en matière de nucléaire, Naoto Kan ? Puisque jusque-là, jusqu'à Fukushima, vous étiez plutôt partisan du nucléaire pour le Japon. Et puis là, vous découvrez que finalement, Vous avez engendré un monstre.
Il y a eu plusieurs étapes. Quand je suis retournée au centre, à la cellule de crise, on m'a tout de suite dit qu'on avait arrêté, toutes les centrales de la région avaient été arrêtées. Donc j'ai senti un sentiment de soulagement, mais manque de chance. Une heure plus tard, on m'a dit que les approvisionnements en électricité des centrales étaient arrêtés. Et à ce moment-là, je savais, j'avais des notions de physique telles que je savais que si les centrales n'étaient pas refroidies, on risquait un meltdown, une fusion du cœur. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir très très peur. Et dans la réalité, effectivement, les cœurs des réacteurs numéro 1, numéro 2, numéro 3, les cœurs ont fondu. Et il a fallu absolument évacuer un grand nombre de populations aux alentours de la centrale. Et alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait très vite, c'est que j'ai demandé à un spécialiste de la question, jusqu'à où cette crise peut-elle aller ? Il a dit, si toutes les conditions se détériorent, si on n'arrive pas à contrôler la situation, on peut arriver à une situation telle qu'il faut évacuer les populations dans un rayon de 250 km à partir de la centrale. Cela veut dire que la zone de Tokyo était comprise dedans. Cela veut dire qu'il fallait évacuer 50 millions d'habitants, et ce, pas seulement pour quelques années, mais pour plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que pendant une centaine d'années, peut-être, il y avait toute une partie du Japon qui devenait inutilisable, qui ne pouvait pas fonctionner. Ça voulait dire qu'on devait réduire la taille du Japon de plus de la moitié. C'est quand j'ai compris l'ampleur du risque qui était encouru que là, j'ai vraiment décidé, j'ai tourné ma pensée de 180 degrés. En fait, jusque-là, je pensais qu'on pouvait faire confiance à la technologie, que les centrales étaient sûres, qu'elles contribuaient au développement économique du pays. Mais quand on voit le risque qui est pris pour faire de l'électricité de cette manière-là, j'ai compris que le risque ne valait pas la chandelle. J'ai compris que les centrales du nucléaire, le risque était beaucoup trop énorme, qu'il fallait sortir du nucléaire, absolument, non seulement pour le Japon, mais aussi pour le monde entier.
Mathieu Golen, vous avez passé plusieurs années au Japon. Au moment de la catastrophe de Fukushima, vous n'êtes pas encore parti, je crois. C'était quelques jours avant de vous rendre là-bas.
C'est ça, en fait. Je devais me rendre au Japon à partir d'avril 2011. Donc au moment du 11 mars, j'étais en train de me préparer pour mon départ. Je pensais partir pour plusieurs mois pour faire du journalisme à Tokyo. Et puis l'accident est arrivé et bon, les vols étaient annulés. Et puis il y avait à cette époque-là, on a un petit oubli, mais il y avait beaucoup d'étrangers, de Français qui revenaient en France, des Américains aussi qui rentraient. Après, il y a eu une petite discrimination à l'époque, on a appelé ça les « flyjin ». C'était un jeu de mots sur « gaijin », il y a eu une critique sur Internet des étrangers qui s'envolaient, qui partaient du Japon. Donc c'est vrai que j'ai été dans cette espèce de contradiction entre vouloir partir au Japon et d'autres personnes qui revenaient. Et puis finalement, au bout de quelques mois, à partir d'octobre 2011, je me suis rendu au Japon.
Et oui, parce que les risques étaient énormes. Hein. L'évacuation ordonnée au début, c'était dans un périmètre de 3 km, puis 10, puis 20 km, alors que l'ambassade des États-Unis, au moment où il y a la catastrophe, conseille à ses ressortissants, comme vous le dites, Mathieu Golen, de fuir au-delà de 80 km. Il y a un flottement dans les prises de décision, mais tout cela, on le sait aujourd'hui. À l'époque, on a le sentiment que sur place, c'était quand même aussi le grand flou. Donc vous, finalement, vous êtes déjà un spécialiste du Japon et vous avez déjà cette connaissance de l'industrie nucléaire sur place.
Alors oui, en fait, parce que à l'époque, je viens de finir un mémoire sur le... Alors, plus spécifiquement sur le mouvement antinucléaire japonais. Parce qu'à l'époque, je m'intéressais aux mouvements sociaux, en général, au Japon. Et je m'étais rendu compte, en fait, en faisant mon mémoire, qu'il y avait pratiquement aucune information, aucune donnée, en français du moins, sur l'industrie nucléaire nippone. Donc une très grosse partie de mon travail a été de faire un petit peu l'histoire de l'industrie nucléaire japonaise, ce qui m'a permis de découvrir que c'était encore mal connu à l'époque, mais que le Japon était une puissance nucléaire civile, la troisième puissance nucléaire au monde, après les États-Unis et la France.
Puissance nucléaire civile, mais pas d'armes nucléaires.
Pas d'armes nucléaires. Une capacité peut-être à s'en doter, mais pas d'armes nucléaires, bien sûr.
Naoto Kan, pourquoi ce choix du Japon de s'équiper en nucléaire alors d'être à ce niveau-là, hein, troisième producteur mondial d'énergie nucléaire? Est-ce que c'est une volonté de ne pas dépendre des hydrocarbures? Finalement, le Japon a une industrie nucléaire qui existe depuis longtemps.
Il y a deux raisons pour lesquelles le Japon s'est équipé en industrie nucléaire. C'est, la première raison, c'est qu'il y a eu une campagne américaine pour faire pardonner les bombes atomiques, c'est de dire qu'il y a un autre usage de l'atome, il y a l'usage pacifique de l'atome, et l'énergie nucléaire est une façon d'effacer l'aspect militaire de l'atome, et les Japonais y ont cru très très fort. Ils ont cru à cet usage pacifique, et les centrales nucléaires étaient l'usage pacifique de l'atome, et c'était une façon de participer à cette campagne américaine. Et l'autre raison, c'est que des hommes politiques, en particulier M. Nakasone, qui était un premier ministre qui était encore très jeune à l'époque, qui était à la fois un penseur et un homme politique, avait quand même une idée derrière la tête. Elle s'est dit qu'il fallait utiliser les centrales pour pouvoir maîtriser l'atome, pour pouvoir le connaître, parce que le jour où le Japon aurait besoin d'un armement nucléaire, bien sûr, c'est dans la Constitution, c'est interdit, mais il viendrait peut-être un jour où ce serait nécessaire d'avoir un armement nucléaire et il fallait pouvoir se préparer pour cette époque-là. Donc je me répète, je redis les choses, mais il y a vraiment une grande partie des Japonais qui ont cru tout naïvement et tout simplement à un usage purement pacifique de l'atome. Et puis, il y a eu parmi les politiques quelques-uns qui se sont dit, il y a une possibilité, si on connaît la technologie de l'atome, pacifique, on pourra un jour, quand ce sera nécessaire, se tourner et avoir un armement nucléaire comme tous les autres pays.
Mathieu Gollen, on peut s'étonner d'un tel choix énergétique dans une zone sismique quand même.
Oui, il y a deux étonnements majeurs, comme le mentionnait M. Kahn. Le premier, c'est le fait qu'il y ait eu des bombardements atomiques. Le Japon est le seul pays à avoir connu le feu nucléaire. Au niveau même du vocabulaire en japonais, on a séparé le mot nucléaire civil et nucléaire militaire. On a kaku d'un côté et genchi ryoku de l'autre, qui permet aussi de mentalement de pas penser à tout à fait la même chose. Puis il y a eu un travail aussi, effectivement, pour séparer le nucléaire civil du nucléaire militaire. Et puis concernant les séismes, c'est vrai que c'est peut-être une question qui a peu été pensée à l'époque, tout simplement parce qu'on était encore dans les années 50-60, à une époque où on pensait pas que des incidents ou des accidents nucléaires étaient possibles. Il faut savoir qu'à Fukushima, les normes sismiques qui avaient été pensées au départ pour les réacteurs, donc le constructeur de la centrale, c'était General Electric, c'est un constructeur américain, et les normes sismiques étaient à peu près proches de celles des États-Unis. Elles ont été ensuite renforcées, mais il n'y avait pas des normes sismiques qui étaient vraiment très fortes au début. Donc je pense que c'était un risque qui n'était pas forcément bien perçu. Et si je puis me permettre, il y a un autre élément aussi, c'est le risque du tsunami. Par exemple, si on reprend la centrale de Fukushima Daiichi, il a fallu détruire une falaise pour rapprocher la centrale de la mer pour des raisons de coût, en fait, pour pomper l'eau de la mer de façon plus rapide et plus facilement. Donc oui, le risque du tsunami et du séisme était moins bien perçu. Alors après, ça a changé dans les années 60, à partir de Three Mile Island en 1979, à partir de Tchernobyl en 1986, il y a eu quand même un renforcement de la sûreté, mais c'est les risques qui étaient mal perçus au début. Oui.
Comme l'a dit M. Gollen, la cause principale de cette catastrophe, en fait, le réacteur numéro 1 a été importé directement, acheté directement aux Américains de General Electric. Et c'était un système de la clé Ton Key. C'est-à-dire que c'est comme une automobile, vous l'achetez et puis vous tournez la clé, ça marche. Et nous, on a importé le réacteur numéro 1 tel quel, sans adaptation au contexte du terrain. Et par exemple, les équipements de sécurité, les générateurs d'électricité de réserve étaient placés très bas. Alors pourquoi ils étaient placés très bas? Parce qu'on les avait achetés des États-Unis. Aux États-Unis, à la différence du Japon, la plupart des centrales sont construites le long des rivières. Et le long des rivières, c'est pas au bord de la mer. Et le long des rivières, vous avez, il y a des phénomènes de tourbillons de vent. Et vous devez mettre les équipements de sécurité le plus bas possible pour pas qu'ils s'envolent. Et on les a importés tels quels. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une erreur fondamentale de conception aussi, c'est que TEPCO, qui a construit la centrale de Fukushima, l'a voulu la construire. C'était un terrain qui était autrefois un terrain d'aviation, qui après la guerre n'était plus utilisé. C'était sur une falaise de 35 mètres de haut. Et ils ont décidé, pour des questions d'approvisionnement en eau de mer, pour réduire les coûts, de couper cette falaise, de la mettre à 10 mètres de haut, alors que l'on savait qu'il y avait des tsunamis qui pouvaient avoir 15 mètres de haut. On l'a mis à 10 mètres en disant, de toute façon, ça se passera jamais, c'est très rare. Et on l'a mis à 10 mètres. Et en plus de cela, on a donc mis ces générateurs de secours à une situation très basse. Si on les avait mis plus haut, ils auraient continué à fonctionner, il n'y aurait pas eu le refroidissement, on aurait pu refroidir les cœurs et tout se serait bien passé. Donc il y a vraiment des erreurs de conception absolument. On n'imagine jamais les accidents, on prévoit jamais assez, on est toujours en dehors des prévisions.
Mathieu Gollen.
Et si je peux rajouter juste un élément, le choix des sites pour construire des centrales nucléaires se faisait aussi en fonction des aspects géologiques, du terrain, mais surtout, un des facteurs primordiaux qui était choisi, c'était des zones où il y avait un délitement de liens sociaux. C'est quelque chose que le chercheur Aldrich a montré dans un de ses livres, Side Fights, où il montrait qu'en fait, le METI, le ministère de l'économie, faisait des études sociologiques, en fait, pour trouver des zones où il y avait un lien social qui était plus faible, des coopératives de pêcheurs où il y avait moins de solidarité, et donc potentiellement, on calculait en fait le potentiel de résistance et de lutte sociale contre la construction d'une centrale nucléaire.
Naoto Kan, la catastrophe de Fukushima est formidable à un titre notamment, c'est qu'il y a tellement de dysfonctionnements, tellement d'alertes et de signes avant-coureurs, et on n'en a pas tenu compte, qu'aujourd'hui, c'est une leçon pour ceux qui sont équipés en nucléaire et les pays qui justement peuvent réfléchir aussi à cette question de sécurité nucléaire. Dans le cas de Fukushima, il commence à y avoir un désamour de l'opinion publique au Japon dans les années 80. Hein, Mathieu Gollen parlait de la catastrophe de Three Mile Island aux États-Unis, survenue en 1979, Tchernobyl en 1986. Et là se met en place un bureau de communication pour rassurer la population, une machine à convaincre, avec le soutien des États-Unis et de la France. Donc on maintient une centrale et un système nucléaire au Japon qui n'a pas les normes de sécurité idéales, mais on le maintient coûte que coûte.
Je ne crois pas qu'on n'ait pas respecté vraiment les normes de sécurité. Je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a séparé le terme de armes nucléaires et de électricité nucléaire. Et les Japonais ont vraiment cru, tout le monde au Japon a vraiment cru à l'usage pacifique de l'atome. Et c'était effectivement des mots différents d'abord, et puis on y a cru, et aussi on a cru beaucoup à la technologie japonaise. Cependant, pour essayer d'éviter cette allergie, on a utilisé tous les moyens possibles pour éviter de faire naître une allergie de la population japonaise à l'énergie nucléaire. Les normes de sécurité étaient respectées, parce que, d'autant plus qu'on était persuadé qu'avec des normes de sécurité bien comprises, on serait à l'abri de tous les accidents. On pensait que les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, c'était des erreurs humaines, et que nous, au Japon, on avait des normes technologiques suffisamment élevées. Et on n'avait pas pu prévoir, et la preuve a été faite tout au cours de cet accident, que c'était toujours en dehors des prévisions. Mais on avait vraiment conscience et on pensait que les normes étaient bien respectées. Et c'est l'accident qui a révélé la défaillance des normes. On s'est aperçu, on avait des dispositifs de sécurité, des générateurs d'électricité, de réserve, on avait tout ce qu'il fallait. Simplement, ils n'étaient pas bien placés. C'est tout, mais si vous voulez, on a tout fait pour rassurer les populations, et c'est la catastrophe qui a révélé qu'on ne prépare jamais assez, on n'a pas assez de normes, aucune norme ne peut couvrir les risques encourus. Pas une seule norme qui peut prévoir tout.
Visiblement, Naoto Kan, il y avait eu quelques petits problèmes avant 2011, ou des accidents, hein, je crois, Mathieu Gollen, vous nous direz. Problèmes avant le tsunami de conformité et de normes antisismiques. Alerte avait été donnée par l'Agence internationale de l'énergie atomique dès 2008. Et finalement, peu de contrôles efficaces ont été réalisés par l'agence japonaise. Est-ce que ça veut dire que tout se passait dans l'entreprise TEPCO et qu'il y a eu une culture de la dissimulation de ce côté-là ?
C'est vrai que c'était une culture certainement chez TEPCO de cacher la vérité. Mais en fait, c'est le système lui-même qui était fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des commissions de contrôle, la commission de sûreté nucléaire, qui était en principe chargée de surveiller le fonctionnement des centrales. Et en fait, on s'aperçoit que cette commission de surveillance était aux mains des gens des compagnies d'électricité, pas seulement de TEPCO, des autres aussi. C'était une façon, on appelle ça au Japon la descente du ciel, c'était des anciens dirigeants de ces entreprises qui devenaient des hauts fonctionnaires. Donc l'organisme de contrôle, en fait, était contrôlé par l'industrie. Et ça a été révélé au moment de Fukushima. Nous, au gouvernement, on s'est pas rendu compte que la commission de contrôle était en fait une commission qui était contrôlée par les électriciens. Et c'est vrai qu'à la suite de l'accident de Fukushima, notre gouvernement, mon gouvernement et celui l'autre du gouvernement démocrate, de l'opposition donc, comme nous, nous avons changé cette organisation de contrôle des centrales. Ce ne sont plus les électriciens qui font, enfin, on ne savait pas, c'était des hauts fonctionnaires, mais des hauts fonctionnaires qui venaient pantoufler chez nous et qui allaient ensuite pantoufler chez... Il y avait une fusion entre ces organes de contrôle. Et donc, après, nous avons changé cela. Nous avons établi, comme aux États-Unis, une commission de surveillance qui fait une surveillance effective. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est quand même totalement différent de tout ce qui fonctionnait jusqu'à Fukushima.
Mathieu Gollen, sur ce point-là, et alors je précise que vous avez notamment fait des recherches suite au message du président de la commission d'enquête indépendante, Kiyoshi Kurokawa, qui concluait en 2012 à un accident made in Japan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans cet accident de Fukushima, il y a des causes profondes à trouver dans la culture, dans la mentalité japonaise aussi, un comportement spécifique? Qu'est-ce qu'on veut dire par « made in Japan » ?
Je ne pense pas qu'il y a quelque chose à trouver dans la culture japonaise. J'adhérerais pas personnellement au propos de Kurokawa Kiyoshi. Par contre, ce qui est intéressant en fait dans son propos, c'est que c'est assez révélateur d'une manière de penser. Et sur la manière de penser, tu es révélatrice d'une manière de penser proprement japonaise, qui renvoie à une littérature très spécifique au Japon qu'on appelle les Nihonjinron, les nippologies, et qui est un renvoi permanent différents événements historiques vers la culture, vers essayer de trouver quelque chose comme une cause profonde, comme une structure qui serait commune à différents événements et qui se justifie par des analogies entre ces divers événements. Pour autant, c'est vrai qu'il y avait quelques problèmes dans l'industrie nucléaire nippone spécifique. Il faut savoir qu'avant l'accident de Fukushima, il y a quand même eu d'autres incidents au Japon. Je pense notamment à l'incident dans la centrale expérimentale de Monju, qui était l'équivalent du Super Phoenix en 1995, où il y a eu un incendie assez important, avec là aussi une tentative de dissimulation, donc c'était une autre compagnie. Tokaimura, qui est un très très grave accident, qui a été classé 4, je crois, en 1999, avec deux morts par irradiation aiguë, plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui ont été éloignés pendant quelques jours, et puis 200 personnes contaminées, irradiées. Et un autre incident dans la centrale de Miyama en 2004. Alors, c'est toujours très simple, a posteriori, de dire on pouvait le voir venir. On pourrait dire aussi il y a des incidents dans tel pays, il n'y a pas eu d'accident nucléaire, ça ne prouve rien. Mais je pense que c'est important de préciser qu'il y avait quand même ces tendances et qu'ils ne sont pas que chez TEPCO. Hein. TEPCO n'est qu'une des compagnies d'électricité. Il y a 10 compagnies d'électricité au Japon. C'est vrai qu'on a tendance un peu à focaliser sur TEPCO, mais il y a potentiellement d'autres problèmes avec les différentes compagnies d'électricité. Et puis je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Monsieur Kahn sur l'autorité de contrôle, l'ANISA. Effectivement, il y avait un problème de pantouflage qu'on retrouve dans toutes les industries au Japon. Mais aussi, il y avait un autre problème, c'était que l'ANISA, était l'autorité de contrôle, était placée sous la tutelle du ministère de l'économie, du métier, qui était en charge de la promotion et de la mise en place de l'industrie nucléaire. Donc c'était, il y avait une petite contradiction. Et depuis, d'ailleurs, la nouvelle autorité de contrôle est placée sous le ministère de l'Environnement. On parle de la NRA maintenant, en 2012, et donc c'est séparé maintenant du métier.
Naoto Kan, vous étiez donc Premier ministre à l'époque, au moment de cette catastrophe. Donc vous héritez aussi de cet état des lieux, c'est-à-dire on perçoit bien que vous n'aviez pas en main toutes les informations pour pouvoir décider vite et au mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous diriez que, faute d'informations, vous n'avez pas forcément pris d'emblée toutes les bonnes décisions ?
C'est pas seulement un manque d'informations. En fait, comme l'a dit M. Kurokawa dans la commission d'enquête, il a montré que les causes originelles de l'accident de Fukushima existaient avant l'accident. C'est-à-dire la conception même de l'usine était mauvaise. Que de toute façon, tout était réuni pour que cet accident éclate. Il a montré la situation, la position de l'usine de 10 mètres seulement, c'était avant l'accident. C'est pas seulement une faute de manque d'information, c'est que de toute façon, toutes les conditions étaient réunies pour faire une catastrophe majeure. Ensuite, il y avait aussi, de manière conjoncturelle, le fait que les trois principaux responsables de Toden, de TEPCO, n'étaient pas là. À ce moment-là, il y en avait un qui était en Chine, l'autre ce jour-là. Un était en Chine, l'autre était à Osaka, et le troisième, qui était assez compétent dans le nucléaire, est parti à Fukushima pour aller faire des explications auprès des autorités, parce qu'il avait peur qu'il ne soit pas assez informé et que les hommes politiques soient en porte-à-faux vis-à-vis de leur population. Donc celui, le seul qui était compétent, au lieu d'être aux manœuvres et de dire ce qu'il fallait faire, il était en train d'expliquer auprès des hommes politiques de la région. Donc finalement, ce n'est pas un manque d'informations, c'est vraiment qu'il y a eu des erreurs à la fois du parti du gouvernement, on n'avait pas les informations, les experts qu'il fallait, et ensuite du parti de TEPCO, ils n'étaient pas opérationnels tout de suite. Donc il y a eu un cafouillage majeur pendant les deux jours, les premiers jours de l'accident. Donc ce n'est pas le manque d'informations, c'était le cafouillage. Et les causes étaient de toute façon là avant l'accident.
On le sent extrêmement bien dans ce film qui sort au cinéma donc mercredi prochain. Fukushima, le couvercle du soleil, ce sentiment d'être face à un monstre que l'on n'arrive plus à contrôler. Où en est-on aujourd'hui des conséquences de cet accident sur la région et sur les habitants? Je vous propose d'écouter tout de suite ce reportage qui a été diffusé sur France TV Info le 25 juillet 2018.
Cela faisait 7 ans que les baigneurs n'avaient pas profité de cette plage. Le samedi 21 juillet, le site a été déclaré de nouveau propre à la baignade.
Je suis heureuse de pouvoir revenir nager ici. Je venais sur cette plage chaque année avant le désastre.
Les autorités japonaises affirment que l'eau est revenue à un niveau de radioactivité acceptable. Au moment de la catastrophe, les experts avaient annoncé que la contamination allait durer au moins 40 ans.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On entendait dans ce reportage que des plages rouvrent, que on propose à la population de reprendre ses loisirs dans certains lieux. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est de l'inconscience? Où en est-on, Naoto Kan, aujourd'hui au Japon? Est-ce que tout est sous contrôle ou est-ce qu'il y a encore du danger, radioactivité, pollution de l'air, pollution marine, etc.
On ne peut pas dire que ce soit revenu exactement comme avant, parce qu'il n'y a pas plus de 20% de la population qui est revenue, même dans les zones autorisées. Il y a des zones qui sont encore interdites. Dans les zones autorisées, c'est maximum 20%. Les jeunes ne reviennent pas, surtout ceux qui ont des enfants. Donc, on ne peut absolument pas dire, le gouvernement dit que oui, on peut revenir, mais c'est seulement les personnes âgées qui reviennent, et c'est 20% pratiquement de ceux qui ont été évacués. Même dans les zones autorisées.
Et qu'en est-il des milliards de mètres cubes d'eau contaminée? Il faut sans cesse refroidir les réacteurs. Qu'en est-il aussi des sols contaminés? Voilà, où on en est effectivement de ce chantier finalement de liquidation, mais qui n'est toujours pas liquidé.
En
ce qui concerne les réacteurs, en tout cas, le 1, 2 et 3, les réacteurs numéro 1, 2 et 3, les cœurs ont fondu. Et non seulement ils sont fondus, mais ils ont traversé le béton, ils ont traversé la cuve, ils sont répartis à l'extérieur. Et on continue à refroidir le plus possible. On recycle l'eau, mais il y a encore toute l'eau contaminée qui est stockée dans les tanks. Il y a des quantités absolument faramineuses d'eau contaminée qui est stockée dans les tanks. Et il faut continuer cette action de refroidissement, sinon... le processus de désintégration de l'atome continuera. Et TEPCO dit qu'ils vont réussir à récupérer, ils appellent ça les débris, c'est-à-dire les morceaux de matière nucléaire qui est fondue, qui est répartie à l'extérieur des cuves. Ils vont ramasser ce qu'ils appellent les débris et ils vont les ramasser. En 40 ans, on arrivera à remettre les sols propres. Je n'y crois absolument pas. Je crois qu'il faudra au moins 100 ans et même en 100 ans, je ne suis pas sûre qu'on y arrive.
Mathieu Golen, sur ces questions-là, puisque c'est vrai qu'on entendait, j'ai utilisé cette expression, tout est sous contrôle, puisque c'est ce qu'on entendait à l'époque de la catastrophe de la part de TEPCO. On entendait aussi, et on entend toujours, zéro mort. Est-ce qu'il y a vraiment zéro mort? On estime plutôt à 2000 le nombre de morts, de l'effet de la crise nucléaire. Et puis, il y a des problèmes de maladies aussi, de cancer, d'anomalies, de problèmes de thyroïde, de saignement de nez. Enfin, voilà, il y a quand même ces conséquences humaines aussi.
Oui. Alors, sur Under Control, c'était aussi le Premier ministre Shinzo Abe qui arrive au pouvoir en décembre 2012 et qui a prononcé, je crois, ses paroles au moment de la candidature du Japon pour les Jeux Olympiques, donc de l'année prochaine. Le but, c'était aussi de rassurer le comité olympique sur la capacité du Japon, après l'accident de Fukushima, à organiser les Jeux Olympiques dans des conditions normales. Donc, il fallait un petit peu présenter les choses comme un retour à la normale.
Rassurer tout le monde.
Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on disait, c'était un retour à la normale. Sur les morts, c'est une question un peu plus difficile. Il n'y a pas de mort directe en lien avec la radioactivité, en tout cas pour le moment prouvé. Ce qu'on a par contre, c'est des morts indirectement liées au désastre de Fukushima. Et donc c'est les personnes qui ont été déplacées en fait à cause de la catastrophe. Donc il faut savoir qu'il y a eu à peu près 450 000 personnes qui ont été déplacées à cause du tsunami. Et parmi elles, on a aussi 160 000 personnes qui ont été déplacées, elles uniquement, donc dans un rayon de 3 km, puis de 20 km, en raison de l'accident de Fukushima. Et parmi ces personnes, il y avait beaucoup de personnes âgées. Il y a même eu des cas où on a dû déplacer des personnes d'un hôpital. Donc il y a eu pas mal de personnes qui sont mortes, d'autres personnes qui se sont suicidées aussi. Il y a pas mal de cas de suicide d'un agriculteur. Et on arrive aux chiffres donnés par la préfecture de Fukushima. Donc le dernier chiffre que j'avais, c'était à peu près 1800. Je crois qu'on est à 2000 morts indirectement liés au désastre de Fukushima. Concernant les conséquences sanitaires, alors il est peut-être encore, on est à 8 ans après l'accident, donc c'est extrêmement compliqué de trouver des liens de causalité avec la radioactivité. On a une étude qui est faite par le gouvernement japonais et la préfecture de Fukushima sur les enfants pour essayer de détecter un cancer de la thyroïde. C'est une étude qui est faite sur 280 000 enfants et on a, à ma connaissance, on a trouvé 160 cas de cancer de la thyroïde chez ces enfants. Donc c'est beaucoup plus que la normale. Là, normalement, on est plus sur un cas sur un million de personnes. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Mais en même temps, les experts concluent que c'est uniquement parce qu'on cherche qu'en fait on trouve plus de cas. C'est que on a une épidémiologie qu'on connaissait mal et que maintenant qu'on connaît mieux. Donc là encore, il y a pas de, le gouvernement ne conclut pas à une conséquence sanitaire. Et puis il y a eu quelques procès quand même, notamment chez les travailleurs du nucléaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont relayés sur le site. Il y en a en moyenne entre 7000 et 8000 par jour. Et une fois qu'ils ont atteint la dose limite, ils ne peuvent plus travailler sur le site. Donc on a, je crois, à l'heure actuelle, à peu près 60 000 personnes qui sont reliées sur le site, avec une dose limite qui va jusqu'à 250 millisieverts par an. En France, c'est, pour un travailleur nucléaire, c'est 20 millisieverts, donc c'est beaucoup plus. Et donc, il y a eu des procès qui ont abouti. Il y a officiellement, reconnu par la justice, 4 personnes qui ont travaillé à Fukushima et dont le cancer, la leucémie par exemple, a été reconnu en lien avec l'accident de Fukushima.
Oui, environ 400 procès en cours, je crois, dont 30 actions collectives. La justice, effectivement, qui avance à petits pas au Japon. Naoto Kan, cette catastrophe de Fukushima vous a fait basculer dans le camp des anti-nucléaires, définitivement ?
C'est bien sûr.
Et quand vous entendez parler des morts qui ne sont pas, pour certains, en lien avec Fukushima, vous dites quoi, vous ?
En ce qui concerne les morts, comme l'a dit Mathieu Golen, alors liés à Fukushima, enfin directement, c'est effectivement ceux qui, dans les réfugiés, les évacués plutôt, il y a eu ceux qui sont morts, soit qui de fatigue, soit de maladie, il y en a eu un grand nombre, et puis aussi il y a eu beaucoup de suicidés, et que le gouvernement refuse de faire un lien avec l'usine, ce n'est pas vraiment mon propos. Ce que je sais, c'est que les populations de Fukushima veulent maintenant se sortir du nucléaire. Ils savent que c'est une région qui est très riche, où il y a des capacités d'énergie renouvelable considérables. Ils veulent garder leur énergie pour le développement de leur région, parce que jusqu'à présent, ils ont été exploités par la grande ville. TEPCO a fait produire, a installé ses centrales pour fournir Tokyo en énergie, en électricité. Et là, il n'est plus question pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est développer eux-mêmes des énergies renouvelables, l'hydraulique, parce qu'il y a une rivière très importante. Il y a le solaire, il y a l'éolien. Et ils ne veulent plus entendre parler de fournir de l'électricité aux autres. Et j'espère que dans toutes les régions du Japon, il y aura un mouvement de citoyens de ce type qui permettra à chacun de devenir maître, de créer leur énergie pour leur propre consommation. Et c'est ça l'enseignement de Fukushima, en fait.
Bien, nous allons y revenir dans un instant, juste après le choix musical de Mathieu Golen. Vous avez choisi non pas de nous faire découvrir un groupe japonais,
j'ai hésité,
mais c'est une chanteuse lituanienne.
Alina Orlova.
Et qui nous chante donc Ménulis.
C'est ça, qui veut dire la lune, je crois.
Et il y a une raison pour votre choix, ce choix-là ?
Non, j'aime bien cette chanson. C'est un peu ma chanson du moment que j'écoute, donc...
Qui vous porte ?
Voilà.
Jau nenumušau mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. O mėnulyje nešlampa kojos, ir mėnulyje nemiršta tėčiai, ten kiekvienas pa. Ten visai nereikia skėčių, o mėnulį yra drakonų. Jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas mėnulis taip toli, taip toli, taip toli, taip toli. Taip toli, taip toli, taip toli.
de Cause à Effet, suite de notre émission sur France Culture, consacrée aujourd'hui à la catastrophe de Fukushima et aux leçons tirées 8 ans après. À la place du nucléaire dans les politiques énergétiques d'aujourd'hui et de demain, nous en discutons avec l'ancien Premier ministre du Japon, Naoto Kan, qui était en poste en 2011 au moment de la catastrophe et qui, d'ailleurs, je le souligne, a écrit un livre, Mon cauchemar nucléaire, un livre pour l'instant en anglais, mais on ne désespère pas d'en bénéficier en langue française bientôt. Et puis avec nous également Mathieu Golen, spécialiste du Japon, doctorant chercheur au Centre de recherche sur les risques et les crises de mines Paritech à Nice, Sophia Antipolis, et vous êtes auteur du livre Le nucléaire en Asie, Fukushima et après, un livre paru aux éditions Piquier. Naoto Kan, il y a eu des effets dominos, on peut dire, après Fukushima. L'Allemagne a choisi, par le biais de sa chancelière Angela Merkel, de sortir du nucléaire. Est-ce que c'est un exemple pour vous ? Quel est votre regard sur ces pays qui décident de sortir du nucléaire ? Ce qui va dans votre sens, hein, c'est la politique que vous portez aujourd'hui, c'est la parole que vous portez aujourd'hui.
Je crois que la décision de Mme Merkel est une décision très courageuse, mais en même temps, elle a choisi la sécurité, la sûreté, elle a choisi une solution bonne pour l'environnement et en même temps une solution économique tout à fait judicieuse.
Est-ce que vous avez été reçu, après la catastrophe de Fukushima, par des chefs d'État qui ont souhaité auprès de vous avoir votre expérience, votre expertise et votre regard ?
En fait, j'ai beaucoup d'invitations de la part des mouvements de citoyens opposés au nucléaire et je me suis rendu à leur invitation dans de nombreux pays du monde. Cela résultait quelquefois, souvent, à des arrêts de tranches où on a réussi à obtenir des arrêts de centrales nucléaires ou des arrêts de tranches. J'ai eu pas mal d'échanges. Bon, actuellement au Japon, je suis dans l'opposition. Je suis députée, mais dans l'opposition. Donc, j'ai pas beaucoup d'occasion de parler avec les gens qui sont au pouvoir. Ils tiennent pas spécialement à parler avec moi. Mais j'ai l'occasion, par exemple, le président actuel de la Corée, qui était à l'époque dans l'opposition, et qui est maintenant devenu président, et il a, grâce à nos discussions et nos rencontres, il a décidé d'arrêter la construction de centrales nucléaires en Corée du Sud. Et j'ai, dans certains nombres de pays, y compris aux États-Unis, j'ai eu des résultats concrets. Pas de sortie du nucléaire, c'est pas à ce niveau-là, mais j'ai eu des arrêts de tranches.
Mathieu Golen, cet effet domino, il a existé véritablement après Fukushima.
Il a existé dans certains pays en Asie et dans d'autres non. En fait, il y a deux camps. Hein. Il y a ceux qui continuent toujours plus. C'est on va dire la Chine, l'Inde, puis la France un petit peu aussi, puisqu'il y a encore des projets de construction de EPR qui sont sur la table.
Le fameux village nucléaire mondial. Hein. Vous appelez ces pays-là comme ça parce qu'on a le sentiment qu'ils marchent main dans la main et qu'ils se soutiennent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt spécifique.
Oui.
Il y a des intérêts économiques énormes.
C'est bien entendu. Et puis, il y a un autre camp qui est celui des pays qui ont fait le choix de la sortie nucléaire, donc l'Allemagne, comme vous disiez, et puis la Corée du Sud, comme disait Monsieur Kan. Taïwan également sort du nucléaire. Le Japon finalement occupe une position un petit peu intermédiaire entre ces deux camps. Enfin, c'est mon sentiment. C'est-à-dire qu'il y a une volonté gouvernementale et des compagnies d'électricité de redémarrer le plus possible de réacteurs. Et puis il y a la réalité en face qui est que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des oppositions de mouvements citoyens, mais aussi parce qu'il y a la nouvelle autorité de régulation qui est assez stricte et qui fait que... Par exemple, l'objectif pour 2030 du ministère de l'économie est d'avoir entre 20 et 22% de nucléaire dans le mix électrique. Et puis, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en a à peu près 7%. On a 9 réacteurs sur 39 potentiellement qui sont redémarrables, qui ont été relancés.
Alors, on en parle dans un instant. Je vous propose d'écouter auparavant ce reportage qui a été diffusé sur France 3. C'était le 12 août 2015.
Actuellement, il y a beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Le redémarrage est fou, complètement immoral.
Nous avons suffisamment d'électricité, malgré l'arrêt des centrales nucléaires. Je ne veux pas que ce réacteur redémarre.
Dans la foule, l'ancien Premier ministre à l'époque de la catastrophe de Fukushima et lui aussi de la bataille.
Nous ne pouvons pas prévoir les accidents, pourquoi ils arrivent. Mais ici, toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises.
Au même instant, à l'intérieur de la centrale de Sendai, les techniciens relancent le réacteur numéro 1. Un impératif voulu par le gouvernement conservateur. L'arrêt du nucléaire aurait, selon un rapport, coûté plus de 26 milliards d'euros au pays.
Nous avons pris une décision claire sur le redémarrage. C'est pourquoi la centrale de Sendai doit reprendre aujourd'hui sa production.
Politique pronucléaire du gouvernement Abe et du METI, hein, le ministère japonais du commerce international et de l'industrie. Naoto Kan, donc depuis 2015, il y a cette politique de réactivation du nucléaire. Vous faites partie du camp opposé. Faites-nous un état des lieux justement. Qu'est-ce qu'il en est concrètement au Japon aujourd'hui ?
Moi, je vais parler des faits, c'est-à-dire qu'il y avait 54 réacteurs qui fonctionnaient avant Fukushima au Japon. Maintenant, il n'y en a plus que 9 qui ont redémarré. Il y en a 23 dont on a décidé déjà de l'arrêt définitif. Donc, vous avez parlé de balance, il y a des pays qui balancent. En fait, la décision est claire, l'évolution est claire. On va sortir du nucléaire, de toute façon, pour une raison simple, c'est que les coûts sont devenus trop chers. Bon, les coûts de construction des centrales ont doublé ou triplé, quel que soit le pays. Donc il n'y a absolument aucun avenir pour le nucléaire. D'autre part, la construction de centrales en énergie renouvelable est devenue meilleur marché. Le coût du kilowattheure d'énergie renouvelable va être complètement, incomparablement plus bas que le coût du kilowattheure de nucléaire. Donc, c'est évident que l'on va sortir. Le plus tôt, ce serait le mieux, évidemment. Alors, il y a l'exemple à part de la Chine, où effectivement, on continue à construire des centrales nucléaires, mais en même temps, on met aussi l'accent sur les énergies renouvelables. Il y a une raison à cela, c'est que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie pour soutenir son développement économique et qu'ils veulent sortir du charbon le plus tôt possible. Donc, ils ont choisi, pour le moment, de construire du nucléaire, même si ça coûte très cher. Et ils ont peut-être des normes de sécurité un peu plus basses aussi. Mais c'est évident que l'on va vers le renouvelable. Alors, savoir à quelle époque. C'est clair qu'au Japon, on va redémarrer, mais ça va être très très lent. Enfin, c'est pas clair. Il n'y a pas un seul pays capitaliste qui peut envisager de continuer le nucléaire parce que ce n'est économiquement pas viable.
Mais vous percevez, Naoto Kan, la puissance des lobbies, la puissance de cette industrie, les enjeux économiques, même si c'est pas viable sur le plan financier. On a le sentiment qu'il y a une machine mise en place pour faire accepter le nucléaire, notamment donc au Japon, malgré une opinion publique qui n'est pas pour la reprise de ce nucléaire. Et puis, est-ce qu'on peut aussi parler de la pression d'autres pays comme les États-Unis ou la France, justement ce village nucléaire mondial qui joue aussi un rôle pour maintenir le nucléaire.
Ce qui est clair pour moi, c'est qu'avant la fin du siècle, le monde sera sorti du nucléaire. Je connais ces machines, mais ce n'est pas une raison. C'est évident que le sens va dans la sortie du nucléaire. Et ce n'est pas un vœu que je fais, c'est que je sais. Et on va en sortir.
Mathieu Golen, je parlais de la pression d'autres pays. Vous en parlez dans votre livre « Le nucléaire en Asie, Fukushima et après ». Vous citez donc les États-Unis. La France, Areva, a des intérêts au Japon et en Asie d'une manière générale.
Oui, alors avait des intérêts peut-être parce que au Japon, par exemple, les intérêts sont plus réduits. Mais c'est vrai que, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'usine de retraitement de Lokashimura, qui est une copie conforme de l'usine de La Hague et qui a été construite par Orano, enfin l'ancien Areva. Et Areva faisait effectivement un chiffre d'affaires qui était assez important en Asie avant Fukushima. Alors Fukushima a eu un peu un impact, mais c'est vrai qu'avant Fukushima, l'Asie était un secteur porteur, notamment aussi avec la Chine qui a fait construire deux EPR qui vont d'ailleurs bientôt être redémarrés, avant même peut-être celui de France.
Quelle est la place des antinucléaires au Japon et leur marge de manœuvre selon vous ?
Les antinucléaires, je pense que M. Kan pourra en parler lui-même puisqu'il est devenu antinucléaire. Ça dépend si on regarde au niveau du monde social ou au niveau des hommes politiques, du Parlement par exemple. Disons que dans l'opinion publique, l'opinion antinucléaire était clairement majoritaire après Fukushima, et je crois le reste à peu près aujourd'hui. Ça s'est traduit par des très grandes manifestations, notamment en 2012, avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues, contre le redémarrage des réacteurs. Donc il y a vraiment une forte existence de cette opinion. Ceci étant dit, la traduction politique de ce mouvement antinucléaire a été compliquée. On a eu, il y a M. Kan qui est député et qui est antinucléaire. On a eu d'autres cas. On a eu Yamamoto Taro qui est un ancien acteur, qui est devenu sénateur antinucléaire et qui a fait aussi porter cette voix. Mais globalement, c'est aujourd'hui le Parti libéral-démocrate qui est le parti dominant quasiment depuis l'après-guerre, qui a repris les rênes du pouvoir pour des raisons différentes du nucléaire. Et qui continue cette politique de relance du nucléaire au Japon.
Naoto Kan, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors c'est vrai que parmi les anti-nucléaires, on pense aussi, alors depuis la France, à l'écrivain prix Nobel de littérature en 1994, Kenzaburo Oe.
Ah non.
Non, on peut discuter des questions politiques et dire oui, il y a un tel qui est dans le Parti libéral-démocrate et pour ou contre. On peut discuter de cela. Bon, c'est des nuances, ça dépend de l'appréciation, ça dépend du point de vue dont on parle. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est déterminant pour le nucléaire, c'est que du point de vue économique, ça ne tient pas la route. Ce n'est plus possible de continuer le nucléaire et ça ne va pas continuer. Areva est le premier à voir et c'est pour ça qu'ils insistent encore, ils essayent encore de se raccrocher aux branches, mais la centrale EPR de Finlande, ça fait trois fois qu'il recule. Le coût sont trois fois plus importants que les coûts du début. Il n'arrive pas à le finir. Ça fait des coûts complètement prohibitifs. Je suis sûr, pour la construction de nouveaux centrales, c'est absolument exclu. Il faut 20 ans pour construire une centrale, 40 ans d'exploitation. Vous imaginez quel sera le coût du kilowattheure après ces 60 ans. Pendant ce temps-là, le coût du kilowattheure des énergies renouvelables va dégringoler considérablement. C'est absolument pas rentable. Ce n'est plus rentable, ce n'est pas possible. Hitachi a voulu construire, avait un contrat avec une société anglaise pour construire Horizon, deux réacteurs en Angleterre. Ils ont essayé de demander au gouvernement anglais des garanties de prix pour dans 60 ans. Quel gouvernement ? Madame May a refusé. Devant cela, bon, Hitachi s'est retiré du projet. Ce n'est pas possible de continuer le nucléaire. Areva aura beau pousser. Donc, je suis absolument sûr que ce ne sera pas pour des raisons... Je remercie les mouvements citoyens qui se battent contre la construction centrale. Mais ce qui sera plus fort que tout, c'est que, économiquement, ce n'est plus rentable de faire du nucléaire.
Je vous propose d'écouter un dernier sujet, un dernier reportage diffusé le 28 novembre dernier. Dans cette France, effectivement, où le nucléaire reste au cœur de la politique énergétique. Vous allez l'entendre à travers cet extrait du discours d'Emmanuel Macron qui présentait la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Réduire la part du nucléaire, ce n'est pas pour autant renoncer. Au nucléaire.
En même temps, fermer sans fermer, 14 réacteurs concernés, Fessenheim 2020, 4 à 6 autres réacteurs d'ici 2030, 6 à 8 d'ici 2035. Lesquels ? Ce sera à EDF de choisir, pas de quoi satisfaire les écologistes.
Naoto Kan, Emmanuel Macron présentait cette programmation, cette PPE, dit que l'on peut réduire le nucléaire, mais réduire, ce n'est pas renoncer. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le président français ou le Premier ministre Édouard Philippe ?
Non, je ne les ai pas rencontrés.
Et vous avez demandé à les rencontrer ?
Non, je n'ai pas essayé de les rencontrer, non.
Quel est votre regard sur la France, qui reste une locomotive du nucléaire en Europe ?
Parce que quand j'écoute le président Macron, ça me fait penser que la France est effectivement à une position à part. Je crois que c'est dû à la politique du général de Gaulle qui a voulu se définir une ligne particulière pour la France pour prendre l'indépendance vis-à-vis des États-Unis et a voulu développer l'armement nucléaire. Et c'est pour cela que tous les gouvernements français qui se sont succédés les uns aux autres, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ils ont toujours lié le nucléaire, même civil, enfin le nucléaire en général, à l'indépendance de la France. C'est la raison pour laquelle la France veut continuer en s'accrochant à cette idée. Simplement, ce que je sais aussi, c'est que du point de vue économique, du point de vue rentabilité, c'est absolument irrationnel, que ça ne tient pas la route, que c'est la raison pour laquelle Areva d'ailleurs a des problèmes et on se demande jusqu'où ils vont tenir, mais les coûts de l'EPR de Finlande sont tellement prohibitifs, sans parler des coûts du EPR en France. Donc,
tant que la France s'accrochera à cette idée factice de lier le nucléaire à la dépendance, ça continuera peut-être en France, mais il y aura bien un moment où la vérité sera révélée, que du point de vue économique, ça ne tient pas la route, que cette idéologie date d'autrefois, et que du point de vue économique, simple, les énergies renouvelables peuvent très très bien remplacer le nucléaire, que le solaire, l'éolien, le biomasse remplacent le nucléaire à des coûts. Donc un jour, même le monde des affaires se rendra compte que s'accrocher au nucléaire est une lubie qui coûte très 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 cher. Et je suis sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, et je pense que ce que je peux dire à la France, c'est faites la transition écologique le plus tôt possible pour faire des économies. Et puis pour l'écologie, c'est mieux aussi. Et puis c'est mieux pour tout. Donc je suis sûr que ça peut très bien et que ça peut remplacer très facilement toutes les énergies fossiles.
Et vous faites l'objet dorénavant Naoto Kan d'un film, hein, le film Fukushima, le couvercle du soleil qui sort le 6 mars en France. Vous l'avez vu, qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver au cœur voilà de cette histoire, même si c'est un comédien bien sûr qui campe votre personnage, mais c'est de revivre cet événement-là.
Je trouve que c'est un Premier ministre plus remarquable que moi. Ceci dit, je dois dire quand même que tout ce qu'il a expérimenté dans le film, je l'ai vraiment expérimenté. Ça reproduit exactement ce que j'ai vécu. C'est à peu près 100% de réalité.
Mathieu Gollen, un regard sur le film ?
Oui. Je suis content que vous me posiez la question parce que je l'avais vu hier.
En avant-première.
En avant-première, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça me permet d'avoir un autre point de vue aussi sur l'accident nucléaire. J'avais lu la traduction en français. Notre laboratoire, le CRC, a fait une traduction en français de l'audition de Yoshida Masao, qui est un point de vue sur l'accident. Là, ça offre un autre point de vue sur l'accident, le point de vue de Naoto Kan. Et c'était très intéressant. Il y avait ce passage notamment, je crois que c'est le directeur de la NISA qui explique qu'il est économiste et qui peut pas répondre à ces questions, qui a d'ailleurs fait réagir un petit peu dans la salle. Hein.
C'est la NISA qui est l'agence nucléaire japonaise.
L'agence de sûreté nucléaire.
De sûreté nucléaire japonaise.
Et
c'est la vérité.
Oui, ça paraît assez incroyable. Mais
c'est vrai. C'est vrai.
Un deuxième point qui m'a... Alors, ça peut paraître un détail, mais en fait, l'action que je me suis posée pendant le film, c'était de voir... on voit notamment le club de la presse, là où tous les journalistes sont, qui dorment à même le sol. On a l'impression un peu d'un naufrage, quelqu'un qui a une serviette autour de lui. Et je me suis posé la question du sommeil, en fait, et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Je me suis demandé si le Premier ministre dormait pendant ces jours...
En fait, on parle de la résidence du Premier ministre. C'est le bâtiment qui abrite à la fois les bureaux du Premier ministre et la résidence. Et donc, il y a la Kante et le Kote. Et alors, pendant toute la première semaine, je ne suis jamais... C'était à une minute de marche. Enfin, c'est dans le même bâtiment, c'est l'aile gauche et l'aile droite. Et pendant la première semaine, je ne suis jamais retourné chez moi dans ma partie résidentielle. Je suis toujours resté avec les équipes. Alors évidemment, quand j'étais seule ou on me laissait un petit peu seule, je me mettais sur un sofa et je prenais un petit sommeil d'une heure ou deux heures, mais je n'ai jamais dormi dans un lit pendant toute la première semaine. Et à la fin de la première semaine, mon équipe, les membres de mon cabinet m'ont dit « Je vous en prie, rentrez chez vous, parce que tant que vous êtes là, nous, on ne peut pas rentrer. Et on a vraiment besoin de rentrer, de se reposer vraiment. Donc si vous ne partez pas, nous, on ne pourra pas partir. » Donc après une semaine... s'est relayé et j'ai commencé à pouvoir dormir à peu près. La première semaine, j'ai jamais dormi dans un lit, sur un sofa, c'est tout. Par exemple, une des décisions la plus dure et la plus importante que j'ai eu à prendre, c'était le matin du 15 mars, à 3h du matin, j'ai appris par le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie japonais que le président de TEPCO m'avait demandé à ce que les ouvriers soient autorisés à quitter la centrale parce que le risque était beaucoup trop grand et qu'il voulait protéger ses ouvriers. Et le ministre m'a demandé que faire et là, entre 3h du matin et 5h du matin, je l'ai convoqué, je lui ai dit qu'il n'en était pas question, que je savais que le risque était énorme, mais que s'il partait, c'était la décision la plus dure à prendre, que s'il partait, la catastrophe deviendrait vraiment, vraiment, vraiment incontrôlable, que j'avais besoin d'eux. Et c'est à ce moment-là, à 5h du matin de ce jour-là, que nous avons décidé de faire une cellule de crise conjointe entre TEPCO et mon cabinet pour pouvoir travailler ensemble, parce qu'il n'était pas question que TEPCO prenne des décisions sans que... Il fallait les prendre ensemble. Donc c'était à 3h du matin, et c'était le 15, c'est-à-dire 4 jours après, je n'avais pas dormi jusque-là. Ceci est décrit dans le livre que je vous ai remis tout à l'heure, et vous verrez heure par heure tout ce qui s'est passé. Et vraiment, je n'ai jamais pris pas plus d'une heure de repos à la fois pendant toute cette période.
Et on le voit très bien dans le film. Dernière question rapide, Naoto Kan. Est-ce qu'aujourd'hui on doit craindre d'autres Fukushima ?
C'est évident qu'un accident comme ça peut se reproduire. Le problème n'est pas de savoir s'il peut se reproduire ou pas, c'est de savoir quels sont les risques encourus. Et quand on le sait, on sait que cet accident peut se produire. Avant, on disait, oh, ça arrive une fois, tel type d'accident n'arrive qu'une fois tous les 400 ans, une fois tous les 1000 ans, on fait des statistiques. En 50 ans, il y a eu Three Mile Island, des accidents majeurs, sans parler de tous les petits accidents qu'il y a eu entre-temps. Des accidents majeurs, Three Mile Island, Tchernobyl. 79, 86, Tchernobyl, maintenant Fukushima. Chaque fois, les causes sont différentes. Il y a toujours un accident. L'accident est absolument inévitable. Donc, l'accident, la possibilité de l'accident n'est pas à envisager. Les risques, même si c'est même une chance sur 10 000, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces accidents. Et quand on sait que ces accidents, c'est ce que disait M. Yasuko, qui est le président de la commission de surveillance américaine, qui m'a dit le problème n'est pas de savoir s'il va y avoir un accident, le problème est de savoir quelles seront les conséquences de ces accidents. Et quand on choisit une politique énergétique, il faut penser aux conséquences possibles. Et ces conséquences sont tellement dramatiques qu'il faut éviter la cause de l'accident. La cause de l'accident, c'est les centrales, il faut les arrêter.
Merci à tous. Merci Catherine Cadou pour cette traduction de la parole de Naoto Kan. Naoto Kan, merci beaucoup et on espère que votre livre sera traduit prochainement en France. Appel aux éditeurs. Et merci Mathieu Golen. Je rappelle que pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos recherches, un lien est disponible sur notre site d'émission vers le centre de recherche sur les risques et les crises de l'École des Mines. C'est à Nice, Sophia Antipolis. Et puis, je rappelle aussi le titre de votre livre, Le nucléaire en Asie, Fukushima et après, paru aux éditions Piquier. Bien sûr, vous pouvez aussi réécouter l'émission, la télécharger, tout est disponible. Et nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. À compter de la semaine prochaine, attention, nous nous retrouverons le samedi soir à 20h et ce jusqu'au samedi 13 avril en raison de la période du carême. Rendez-vous donc samedi prochain pour une spéciale La Voix est libre avec la journaliste, réalisatrice et auteure Marie-Monique Robin. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes, bien sûr, sur France Culture, avec Être et Savoir et Louise Touré.